L'Éden de Seth en numéro 133. Questions et réponses réunion des ministres du mois d'octobre 2023. Le 21 octobre 2023. Brian Kozurek. Pasteur. Ok. Alors examinons de près les paroles prononcées ici. Maintenant, rappelez-vous, c'était il y a longtemps et le Seigneur parle de ce qu'ils ont fait, déjà fait. Donc avant que ces paroles Néhémie soient dites à Amos ici, ils vont dire les justes pour de l'argent, et les pauvres pour une paire de souliers. Et ils emmenèrent captifs tous les captifs, pour les livrer à Édom. Eh bien, nous Néhémie devrions pas être autant excités quand nous voyons le nom d'un lieu dans la Bible. Comme, Gaza. Car Dieu s'occupe de cette région depuis des milliers d'années. Ce n'est pas parce que la Bible utilise le nom de « Gaza » qu'elle parle de ce jour-ci. Rappelez-vous, il y a eu environ 996 ans depuis le moment où Samson a enlevé les portes de la ville de « Gaza », et c'était 996 ans avant la naissance de Jésus. Puis il a vécu environ 33 ans et demi, et puis il a été crucifié. Et plusieurs années après cela, le Saint-Esprit a dit à Philippe d'aller dans le désert de Gaza où il a rencontré l'eunuque éthiopien et Dieu lui a ouvert les yeux sur les Écritures. Nous examinons donc plus de 1040 ans entre l'épisode de Samson avec les portes de Gaza et l'expérience de l'eunuque éthiopien avec Philippe dans le désert de Gaza. Mais ce que je veux que vous voyez, c'est la façon dont la Bible le formule. Car les chapitres 1 et 2 d'Amos parlent d'un châtiment pour ce qu'ils avaient déjà fait. Il est dit, ils emmenèrent. Or, s'il s'agissait d'un événement futur, il aurait dit, ils emmèneront. Donc, vous voyez, ils l'avaient déjà fait. Il en est parlé au passé. Mais il semble que les occupants n'aient jamais appris de leurs erreurs, parce qu'ils ont refait la même chose. C'est-à-dire à dire qu'ils ont emmené des captifs en ce jour-là, mais non pas de Gaza, mais à Gaza. Mais en ce jour-là, il est dit dans la Bible qu'ils les emmenèrent pour les livrer à Édom. Or, la Bible parle d'Édom, et Édom est l'endroit où les Édomites habitaient. Alors vous saurez que c'est la Transjordanie moderne, ou le pays qui borde le pays avec le Jourdain et Israël. Et s'il l'avait fait en ce jour-ci, le monde entier l'aurait su. Mais aujourd'hui, ils les ont pris d'Israël et les ont emmenés à Gaza. La réponse est donc non. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui. Mais le chapitre 3 commence par ce que Dieu fera avant de faire quoi que ce soit, à savoir qu'il nous enverra un prophète pour nous dire ce qui arrivera. Et puisque notre prophète n'a rien dit à ce sujet, nous ne devons pas prendre de déclarations non confirmées pour des certitudes. Car soustraire un seul mot, c'est le royaume de Satan. Néhémie l'oubliait jamais. L'unité 11 février 62 p. 35 Satan vous fera toutes sortes de promesses, mais il n'a rien à vous donner, car il n'a rien. Il n'a pas de salut. Qu'est-ce que Satan? Tout ce qui est contraire à la parole. Il n'a pas de salut. Il n'a pas de lumière. Son royaume est ténèbres. La fin de cela, c'est la mort. Les ténèbres et la mort sont le royaume de Satan. Répétez cela, frère Branham. Qu'est-ce le royaume de Satan? Toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Eh bien, cela blesse, mais c'est le moment de blesser. Vous voyez, la branche, l'arbre, s'il doit porter du fruit, il faut qu'il soit émondé. C'est le moment. Tout ce qui est contraire au précepte de Dieu, à la parole de Dieu, n'est pas Dieu. Qu'est-ce que le péché? La justice pervertie. Qu'est-ce que la mort? La vie pervertie. Qu'est-ce que le royaume de Satan? Tout ce qui établit quelque chose pour remplacer la parole. N'importe quoi. N'importe quel enseignement. Un mot. Rien qu'un mot. Il se pourrait que vous croyiez le tout. Eve croyait tout cela. Sauf ce seul mot. Ce seul mot. C'est-à-dire tout qui lui suffisait pour être incrédule. Ce seul mot est-à-dire tout ce qu'il vous suffit pour être incrédule. Par conséquent, comme Frère Bell nous l'a si souvent dit, un mot en moins, c'est-à-dire le royaume de Satan, et ce que nous venons de lire, c'est-à-dire ce que Frère Branham a dit. Encore une fois, nous entendons Frère Branham dire dans son sermon intitulé l'unité de novembre 62p, 26, bon, réfléchissons sérieusement, car nous n'y pourrons plus jamais réfléchir après ceci, après que cette vie mortelle sera passée. Réfléchissez maintenant. Vous n'y pourrez pas choisir après ceci, c'est-à-dire maintenant que vous devez choisir, car voici le jour du choix, de faire votre choix. Eh bien, un seul mot, non pas tout le décalogue, rien qu'un mot, elle douta de Dieu, car la chose lui fut présentée dans un angle tel que la parole était discutable. La parole de Dieu Néhémie peut pas être remise en question, il pensait exactement ce qu'il avait dit. Mais elle douta de cela, car on lui avait présenté, oh, Dieu Néhémie voulait certainement pas dire cela. Mais c'est-à-dire bien ce qu'il voulait dire. Dieu pense chaque parole qu'il dit. Et elle n'a pas besoin d'une interprétation particulière. Elle est juste telle qu'il l'a dite. Eh bien, vous direz, que savez-vous de la Bible? Je crois que mon Dieu a été le concepteur de cette Bible. Il veille sur sa parole. Il savait que des athées et des infidèles se lèveraient dans les derniers jours. Ainsi veille sur, elle. C'est exactement ainsi que Dieu la voulait. C'est-à-dire ainsi qu'elle est pour nous maintenant. Eh bien, nous devons la croire. Une seule parole en dehors de cela, et nous perdons notre communion, nous nous en allons dans la mort, la séparation éternelle avec Dieu, juste comme Adam et Ève. Nous devons croire la vérité de Dieu. Cela me rappelle une réunion en Californie. Je crois qu'il se peut que ce soit en 1965, et frère James Phillips se souvient de ce qui s'est passé là-bas. Il y avait une femme qui s'est avancée, et avant que frère Branham Néhémie prie pour elle, il lui a dit beaucoup de choses pour l'amener à croire, et frère James s'est souvenu de la femme qui criait et qui hurlait chaque fois qu'un détail lui était mentionné, comme pour reconnaître que tout ce qu'il disait était la vérité. Et alors, frère Branham a dit à la femme, « Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour votre frère qui est couché à l'hôpital. » Mourant. Est-ce vrai? Et elle dit, « Oui. » Alors il dit, « Prenez votre mouchoir et allez le poser sur lui. Et quand vous aurez fait cela, il guérira. » Alors elle est partie avec un groupe d'une douzaine de personnes et ils l'ont convaincu de les laisser la porter à son frère et de le lui imposer. Mais quand ils l'ont fait, l'homme est mort et ils ont prétendu que c'était une fausse parole de Dieu. Et pourtant il lui avait dit à elle de le faire et elle n'aimait l'a pas fait. Elle a laissé les autres le faire pour elle. Ainsi, ce que frère Branham lui a dit de faire par une vision, elle n'aimait l'a pas fait. Ainsi, vous voyez, Dieu est très détaillé et très spécifique. Frère Branham a dû attendre jusqu'à ce que le chapeau soit sur la chaise telle qu'il avait vu dans la vision avant de pouvoir se lever et prononcer la guérison. Jésus a contourné 300 malades et infirmes pour imposer les mains à un seul homme qui était infirme. Et frère Branham a dit que ce n'était peut-être qu'une simple prostate. Beaucoup de gens avaient besoin de guérison, mais Dieu Néhémie lui a montré qu'une seule personne, et c'est celui à qui il a imposé les mains. Ainsi, même Jésus a été éprouvé, pour voir s'il s'en tiendrait à la vision, ou s'il ferait ce qu'il voulait. Il a donc dû attendre de voir la vision s'accomplir avant de pouvoir y entrer. Assurez-vous donc que vous n'avez mis, regardez que ce que Dieu a pour ses élus en cette heure. Sinon vous risquez de manquer cela en voyant toutes les autres distractions qui se produisent, car il y en aura beaucoup. Pour vous, frères, j'ai encore beaucoup à dire sur ce qui se passe et je l'ai déjà dit la semaine dernière. Alors revenez en arrière et relisez ce que j'ai dit, et vous n'y serez pas pris dans l'une de ces distractions. Question numéro 2, quelle est-elle la différence entre la fin des trompettes dans Lévitique 23 et les sept trompettes dans Apocalypse? Réponse No 2. Frère Branham nous a déjà dit ce que sont les sept trompettes. Il a dit que c'était pour les Juifs. Reconnaître votre jour et son message 26 juillet 64 MP, vint le temps des nations s'estèrent poursuivies pendant sept, fêtes de la Pentecôte. Les trompettes. Sous. Elles ont toutes sonné sous le sixième sceau. Et nous en avons parlé dimanche passé. Quand nous avons abordé la fête des trompettes. Si vous voulez vous procurer ça. Elle devait servir à quoi? À amener les Juifs à rentrer en hâte. De tous les coins du monde. Dans leur patrie. Il faut qu'ils y soient. Et l'ouverture des sceaux. Sous le sixième sceau. Et sous. Les sept trompettes ont sonné au sixième sceau. Maintenant, le message du septième ange. Esther de dévoiler le mystère des sceaux, en appelant les ouvriers de la onzième heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Voyez? Or, Jésus a enseigné cela. Il a dit que des gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été embauchés. À ce moment-là, tôt le matin, ils allaient être payés à raison d'un denier par jour. Ensuite, à midi, quelqu'un d'autre Esther arrivait, et Esther allait travailler. Ensuite, à la onzième heure, ce qui Esther la dernière heure du jour, là, quelqu'un Esther arrivé, et il a reçu comme salaire la même chose que ce qu'avait reçu ceux de la première heure du jour, à la dernière heure. C'est Esther tellement parfait. Les messagers de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Ensuite, il y a eu un âge des ténèbres, où ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et ensuite, il doit y avoir un message du temps du soir, où ils recevront la même chose que ce que ceux du commencement avaient reçu. Le message du temps du soir doit rétablir, ramener la même chose de nouveau. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les ouvriers de la onzième heure, voyez mon sermon dans la série Les paraboles sur les ouvriers de la onzième heure. Mais remarquez que les trompettes n'ont rien à voir avec les pousses des nations, mais ont tout à voir avec le retour des Juifs dans leur patrie. Reconnaître votre jour et son message 26 juillet 64 MP, 19 est donc la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher ces sept trompettes. Même que j'étais prêt à faire l'annonce, les salles étaient prêtes, et tout, pour qu'on s'y rende, pour prêcher les sept trompettes. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement, j'ai dit. On a continué à travailler, Billy et nous tous, on s'estère efforcé de tout préparer, la climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine, pour les sept trompettes, on avait la salle de l'école, pour 10 jours, ou 8 jours. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant, pour une raison ou pour une autre, et je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Et je me suis agenouillé sincèrement devant Dieu, pour prier. Et il m'a révélé que si cette trompette ont sonné sous le sixième sceau, et je l'ai prêché, déjà, de façon surnaturelle. Vous voyez, c'est-à-dire la main de Dieu, toute la chose. Cela se rapporte à Israël, et nous avons vu ce qu'il en était sous le sixième sceau. Pour ceux d'entre vous qui se sont procuré ça, il s'agit de la persécution des Juifs. La fête des trompettes 19 juillet 64 MP, 106 je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Là, Néhémie manquait pas ceci. C'est vraiment frappant. Du message du septième ange, le messager du septième sceau, dans Apocalypse 10. Ce qui était le septième sceau, jusqu'aux sept trompettes, entre ces deux moments-là. Ô Dieu, comment le dire, pour que les gens le voient? C'est-à-dire entre cette sixième trompette, et la sixième trompette et la sixième trompette et le sixième sceau sonnent en même temps. Et, entre la sixième trompette et la septième trompette, maintenant, permettez-moi de dire ceci comme chronologie de ce qui s'est déjà passé. La sixième trompette, c'est le retour d'Israël dans sa patrie, qui a commencé en 1946 et le message à l'Église des Nations s'est accompli à partir de quand? 1946. Ils ont commencé à se rendre dans leur patrie, mais ce n'est qu'en 1948 qu'ils ont eu le statut d'État. Vous vous demandez peut-être, comment appelle-t-on le retour d'Israël dans sa patrie? C'est un terme spécial de la Bible hébraïque qui est utilisé pour décrire le processus de retour à la terre promise et il est appelé Aliya, ce qui signifie monter. Ce terme était utilisé dans les temps anciens en référence aux pèlerins juifs qui montaient à Jérusalem pour les trois grandes fêtes bibliques de la Pâque, de la Pentecôte et des Tabernacles. Alors, frère Branham continue en disant, un prophète doit se présenter devant ceux des nations, pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originelle. Et les deux témoins d'Apocalypse 11 se présentent aux Juifs, pour les diriger vers Jésus, pendant que l'Église est enlevée. Tous des prophètes. Amen. La parole du Seigneur Néhémie peut pas être anéantie. Ce Néhémie sera pas une dénomination. Le voyez-vous? Le 7e sceau 24 mars 63 soir P, 61 remarqué. Mais quand les sceaux ont été annoncés, tout cela s'est fait en une seule glorieuse chose divine, pour appeler un groupe de gens à sortir, une seule trompette a sonné, et sept sceaux ont été brisés. Remarqué, rassemblez ces juifs élus, des quatre coins des cieux. Il a parlé des six sceaux, comme nous l'avons vu, mais pas du septième sceau. Il n'a jamais soufflé le moindre mot, ici, au sujet du septième sceau, nulle part. Vous voyez, tout de suite au verset 32, il passe à des paraboles qui ont trait au temps de l'appel des Juifs élus. Les 70 semaines de Daniel 6 août 61 maintenant, mon frère missionnaire, c'était pour les Juifs, un cher précieux frère qui est quelque part ici. Voilà ce que je voudrais que vous saisissiez et compreniez. Voyez-vous, Dieu a tout de suite cessé de traiter avec les Juifs, parce que Dieu traite toujours avec Israël en tant que nation. Nous tous savons ça, Israël est une nation. Quant à ceux des nations, eux, ils sont un peuple. Il a dû faire sortir du milieu des nations un peuple qui porte à son nom. Nous allons voir ça dans quelques instants. Mais, maintenant, c'est cet âge de l'Église, dont nous avons fait l'étude, le temps des nations, de la crucifixion de Christ jusqu'à la fin des âges de l'Église. Maintenant, ça, nous l'avons vu. Nous l'avons étudié d'un bout à l'autre. Maintenant, nous en arrivons au point où nous pouvons prendre les, aborder les sept sceaux, les sept coupes, les sept trompettes, et tout ça, avoir une vue d'ensemble, tout ce qui a trait aux Juifs au jugement que Dieu exercera sur les gens qui sont sur la terre. Et le reste. Les instructions de Gabriel à Daniel 30 juillet 61 MP, 73 SA. Esther, l'un des passages les plus importants du livre. Qu'Esther ce qu'il fait? Il annonce quand ce sera terminé pour la nation juive, le peuple juif. Ce passage de l'Écriture, les 70 semaines, il révèle et dit exactement ce qu'il en Esther, à partir du moment où Daniel a commencé, là-bas, jusqu'au moment où ce sera la fin de toutes choses. C'est Esther l'une des plus grandes horloges. Combien m'ont entendu dire, si vous voulez savoir quel jour de la semaine nous sommes, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir à quelle époque nous vivons, observez les Juifs. C'est Esther juste. Il y a le calendrier de Dieu pris ici même. Combien m'ont déjà entendu dire, si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est Esther, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir à quelle époque nous vivons, observez les Juifs. C'est Esther exact. C'est Esther de là même que Dieu tire son calendrier. N'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe lequel vous dira que l'horloge, c'est Esther les Juifs. Au fait, quelle heure Esther-il? Ça n'a rien à voir avec les nations, les sept sceaux, les sept fléaux, les sept malheurs, les sept trompettes n'ont absolument rien à voir. L'Église des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Rien à voir avec nous, l'Église des nations. Il n'est s'agit là que d'Israël, Daniel, ton peuple, et Jérusalem. Maintenant, la fête des tabernacles dans Lévitique Esther réservée aux Juifs. Elle appelle tous les Juifs à retourner dans leur patrie, et puisque je n'ai pas une parole du prophète à ce sujet, je dois contrôler mes propres pensées. Lévitique 23.33 et le Seigneur parla à Moïse, disant, 34 parle aux enfants d'Israël, en disant, le 15e jour de ce 7e mois sera la fête des tabernacles pendant 7 jours, au Seigneur. 35 le premier jour il y aura une sainte convocation, vous n'ayez mis fera aucune œuvre servile. Maintenant, l'Israël moderne a détourné cela d'un jour saint et d'une sainte convocation et d'un jour de repos. Et ils en ont fait un jour impie d'activité mondaine, et un jour de loisir et d'amusement, comme de danse sensuelle qui n'honore pas Dieu mais Satan, et de consommation d'herbes et de fêtes où on se drogue. Cela n'a rien à voir avec une sainte convocation qui signifie un saint rassemblement où la parole doit être lue, et les gens doivent se rassembler autour de la lecture publique de la parole, et non autour de fêtes sur la plage, de danse sensuelle et de fêtes de consommation illicite de drogue. Mais c'est ce que l'Israël moderne a fait avec la parole de Dieu. 36 Pendant 7 jours vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. Au 8e jour il y aura une sainte convocation pour vous. Et vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. C'est une assemblée solennelle. Et vous n'y ferez aucune œuvre servile ce jour-là. 37 Ce sont là les fêtes du Seigneur. Que vous proclamerez pour être de sainte convocation, pour offrir une offrande faite par feu au Seigneur, une offrande à brûler, et une offrande de viande, un sacrifice et des offrandes liquides, libation, chacune de ces choses est son jour. 38 Outre les sabbats du Seigneur, et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous donnerez au Seigneur. 39 Aussi le 15e jour du 7e mois. Quand vous aurez recueilli les fruits du pays, vous célébrerez une fête au Seigneur pendant 7 jours, le premier jour sera un sabbat, et le 8e sera un sabbat. 40 Et le premier jour vous prendrez des rameaux des beaux arbres, des branches de palmiers, et des rameaux d'arbres touffus et des saules des ruisseaux, et vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu, pendant 7 jours. 41 et vous la garderez comme une fête au Seigneur pendant 7 jours dans l'année. Ce sera un statut perpétuel pour vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. 42 vous demeurerez pendant 7 jours dans des cabanes, tentes. Tous ceux nés israélites demeureront dans des cabanes. 43 afin que vos générations sachent que j'ai fait demeurer les enfants d'Israël dans des cabanes. Lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte, je suis le Seigneur votre Dieu. 44 et Moïse déclara aux enfants d'Israël les fêtes du Seigneur. Remarquez, ils devaient cueillir les fruits de la récolte, les offrir au Seigneur et s'asseoir sous des tentes. Et là, dans leurs tentes, ils se concentraient sur les choses de Dieu. Mais Néhémie l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils en ont fait un moment de loisir. Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, ils devaient être dans leur tente, et nous en arrivons aux nôtres, et les nôtres seront un temps de sainte convocation. Ce Néhémie sera pas un temps comme des grandes conventions où les gens se rassembleront pour communier, mais leur communion sera autour de la parole. Si vous marchez dans la lumière comme il est Esther dans la lumière, alors vous aurez la communion et le sang de Jésus vous purifiera de tout péché, qui Esther l'incrédulité. Frère Brian, ces questions sont posées pour établir les gens dans la vérité. Alors les écritures et les citations que vous apporterez seront d'une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Question numéro 3, cette question concerne la persécution, la tente et le troisième pull. Voici les citations. 3. La tente et le troisième pull. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? 1er janvier 56 p. 18 et je vis cette lumière dont ils ont pris la photo. Vous savez, qui Esther toujours dans les réunions, je vis cette lumière me quitter, aller à cette construction et entrer. Et une voix me dit, je te rencontrerai là-dedans, ce sera le troisième pull. Le 7e soir 24 mars 63 soir p. 98 et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un. Au-dessus de moi, cette lumière que vous voyez là sur la photo. Elle s'Esther éloignait de moi en tournoyant, comme ça, et elle Esther allait vers la tente. Et il a dit, je te rencontrerai là. Et il a dit, ce sera le troisième pull. Et tu n'en parleras à personne. 3b, la persécution et le troisième pull. Shalom 12 janvier 64 p. 116. Et nous savons tous que l'identification. Nous savons ce qu'Esther le troisième pull. Nous tous, nous comprenons cela. Maintenant, vous aurez la bande. Vous voyez? Et c'est Esther. Maintenant, je pense que cela va sommeiller pendant un petit moment, jusqu'à ce que la grandeur de la persécution vienne. Tournez les regards vers Jésus 29 décembre 63 soir p. 20 alors. Les personnes comme nous seront complètement exclues de tout ça. C'est Esther exact. Parce qu'elles n'est mis pourront pas le faire. Ça se resserre. Et alors, quand ce temps viendra, et que la pression sera là telle que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors regardez bien le troisième pull. Donc, question numéro 3. Quel est Esther donc le lien entre la tente, la persécution et le troisième pull? Réponse à la question numéro 3, tout cela peut être lié par une citation où il dit, Jéhovah Jireh 24 février 56 p. 50 quand nous aurons dressé notre grande tente quelque part ici, nous prendrons tout notre temps pour examiner ces choses entre les lignes. Voyez la résurrection? Comment elle se déplace là-dedans? C'est Esther tout simplement magnifique. Tombez simplement amoureuse de lui et il vous révélera cela. Et puis, j'ai remarqué que, vous savez ce que Dieu a fait à Abraham et à Sarah là, je vais vous dire ce qu'il a fait. Il les a rajeunis en un jeune homme et une jeune femme. Oh, direz-vous, frère Branham, C'était ridicule. Mais il l'a fait. Il les a rajeunis en un jeune homme et une jeune femme. Il a fait. Ainsi, le troisième pull nous est montré par type. Attirail a reçu la vie pour ses garçons. Au poisson, sa vie lui a été redonnée. Les écureuils ont reçu la vie depuis une simple pensée qu'ils étaient. La vie, créatrice, la vie de la résurrection et la vie de la miséricorde. Toutes les trois se trouvent dans les trois exemples du troisième pull. Question numéro 4. Dieu tient sa parole 20 janvier 57 FP, 24. Le Seigneur Jésus viendra bientôt. Mais l'esprit de ce jour. Oh! Pouvez-vous voir? Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir ce qui s'est passé? Avant ce grand assaut qui va venir. Afin d'introduire la marque de la bête et pour accomplir les écritures. En imposant aux gens. Une fois que son emprise aura été exercée ici comme c'est le cas dans les autres pays, en leur imposant des choses qu'ils n'acceptent pas, afin de provoquer la persécution et le boycottage. Donc, la question numéro 4, cette affirmation s'est elle seulement accomplie lors des confinements du Covid-19. Et que maintenant c'est fini? Où sommes-nous censés attendre quelque chose de plus grand? Réponse numéro 4, je crois que nous venons à peine de voir le début de ce qui va arriver, comme une sorte d'aperçu des attractions à venir, pour ainsi dire. Parce que la prochaine fois, ils contrôleront ce que vous dépensez, ils auront leur crypto-monnaie et personne n'est mis pour acheter ou vendre, à moins qu'ils n'utilisent cette crypto-monnaie. Ce qui leur permettra alors de vous confiner dans une sorte de petit enclos, comme on fait au bétail, et d'exercer sur vous une pression financière et de vous boycotter de leur système. À moins que vous n'y soyez d'accord avec eux sur tous les points de propagande. C'est exactement ce dont parle l'Apocalypse au sujet de la marque de la bête. Pour la question numéro 5, dans l'enlèvement 4 décembre 65 p. 75 non. Sester. La première chose, Sester le son, ou la première chose, Sester la trompette, et, une voix, un cri, et puis une voix, et puis une trompette. Un cri de commandement, Sester un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, Sester une voix de résurrection. Sester la même voix forte qui, dans Jean 11.38-44. Appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse. Puis la résurrection des morts. Vous voyez? Pour être enlevé avec eux. Maintenant observez comment les trois choses s'accomplissent. Dans votre sermon, l'Éden de 7 en numéro 37. Quelle est la signification du cri? De la voix et de la trompette? Vous avez dit, alors, qu'est-ce que le cri? C'est la parole, le message de l'heure. Et qu'est-ce que la voix de l'archange? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la trompette de Dieu? C'est la parole de Dieu. Dieu descend avec sa parole, parce qu'il est la parole. Et les trois choses qu'il fait, sont la parole. La parole. La parole. Le cri. La voix. La trompette. Sester la parole. La parole. La parole. Dieu. Par sa parole. Fait les trois. Sester la clé. Dans l'Éden de 7 en numéro 5, la foi pour les promesses de l'âge de l'épouse. Vous avez introduit votre sermon en disant, maintenant, nous savons que l'enlèvement lui-même est un processus de trois choses que Dieu lui-même fait lorsqu'il descend du ciel. Ces trois choses sont 1. Le cri. 2. La voix. Et 3. La trompette. Dieu fait tous les trois lors de sa descente, comme nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4.13-18. Donc, question numéro 5. Pouvons-nous dire alors que le cri, La voix, la trompette sont dans le message de l'heure, se déployant encore, par la révélation, et l'expression de la vie de Dieu grandissant dans l'épouse. Réponse à la question numéro 5. Eh bien, nous pouvons dire que la parole dit clairement que le Seigneur lui-même fait les trois. C'est Esther donc lui qui a apporté le cri, et qui déclenchera la résurrection, et finalement l'enlèvement lui-même. William Branham lui-même a dit qu'il n'avait rien à voir avec cela. Il a lui-même dit dans son sermon Les uns du temps de la fin, « Je n'y suis pas celui qui Esther apparut à la rivière, je me tenais simplement là quand lui Esther apparut. » Et il a dit, « J'étais seulement une voix qu'il a utilisée. » Alors n'oubliez jamais que nous n'avons rien à voir avec ce que Dieu fait, sauf d'être prêt pour ce qu'il fait ensuite. La révélation Esther est une manifestation de la vérité divine, non pas ce que vous manifestez comme vérité, mais Esther est une manifestation de la vérité divine, donc Esther ce que Dieu manifeste comme étant la vérité, pas ce que vous savez être la vérité. Il n'y a donc rien que nous puissions penser ou faire, mais ce que Dieu veut est fait. Ce n'est pas ce que nous pouvons comprendre. Il s'agit de regarder et de voir ce que Dieu fait. C'est Esther tout. Le cri va du message, qui nous prépare, à la voix, qui Esther la résurrection, puis à la trompette, qui Esther l'enlèvement. Alors, avec lequel de ces éléments avons-nous quelque chose à voir? Aucun. Mais Dieu fait les trois. Et nous les recevons simplement alors qu'il les fait. Ce n'est donc pas comme si nous avions quelque chose d'autre à faire que de recevoir ce qu'il fait. Pour la question numéro 6, Romains 12.1 Je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. 2 Néhémie soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pensée, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. D'où ma question numéro 6, pouvez-vous expliquer ce qu'est le renouvellement de l'intelligence et comment cela apporte-t-il le changement du corps? Réponse numéro 6, le renouvellement de l'intelligence est la même chose que le changement de doxa en doxa et d'image en image dans 2 Corinthiens 3.18. Au fur et à mesure que vous recevez une nouvelle vérité, vous vous y adaptez et sa parole devient maintenant votre parole. Ce processus vous ramène alors à ce que vous étiez en lui avant la fondation du monde. Comme Jésus l'a dit dans Jean 17.5 au Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j'avais avec toi, avant que, le monde existe. Et puis il a dit dans Jean 17.20, Or je n'ai mis prix pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es aille en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un, 23 Moi en eux. Et toi en moi, afin qu'ils soient perfectionnés en un, et que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. 24 Père, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi où je suis, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pour la question numéro 7, Dieu dans sa parole 23 mars 57-35 Je n'ai pas d'excuses à présenter pour cette observation que je m'apprête à faire. Je crois, et je peux le prouver, que la bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine de Dieu l'amènera à s'accomplir. Oui monsieur. La bonne attitude mentale. Mais vous devez avoir la bonne attitude. C'est l'attitude qui produit les résultats. Si vous dites, oui, Je crois cela. Mais je n'ai émis c'est pas maintenant. Ce n'est-ce pas ça la bonne attitude? La bonne attitude? C'est-ce de recevoir cela et dire c'est-ce ainsi dit le Seigneur? Alors c'est-ce vrai? Question numéro 7. Qu'entend-il vraiment par la bonne attitude mentale et comment pouvons-nous l'obtenir? Réponse à la question numéro 7. Il pense exactement ce qu'il a dit ici. Et exactement ce que vous avez cité de frère Branham qui a dit, la bonne attitude est-ce de la recevoir? Et de dire, c'est-ce ainsi dit le Seigneur. Alors c'est-ce vrai? Question numéro 8. La résurrection et le tremblement de terre? Viendra-t-il tout d'un coup surprendre l'épouse? Réponse à la question numéro 8. Non. Je n'y pense pas que quelque chose surprendra l'épouse. Mais cela surprendra la Vierge folle endormie. Mais l'épouse s'attend à ce qu'il vienne et nous nous attendons à ce que le tremblement de terre commence le processus, parce que c'est ainsi que cela s'est passé dans l'Alpha. Apocalypse au chapitre 4 deuxième partie, les 24 anciens 1er janvier 61 p. 42. N'oublions donc pas que ce qui paraît grand aux hommes. Bon. Sister, pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir un tas de fleurs? Quand Dieu reviendra? Quand Jésus reviendra? Vous serez surpris de voir cette petite lavandière au bout de la ruelle. Vous serez surpris de voir ce pauvre homme qui n'aime et dit rien. Qui garde ses secrets pour lui et marche devant Dieu dans l'humilité. Vous serez surpris. Sister sûr. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur les jugements, les surprises au jugement. Sa Néhémie sera pas une surprise d'y voir le contrebandier. Il sait qu'il y va. Certainement. Sa Néhémie sera pas une surprise de voir le menteur, l'adultère et tout le reste là-bas. Sa Néhémie le sera pas. Mais la surprise et la déception seront pour ceux qui pensent qu'ils s'y allaient. Oui. Et ensuite seront rejetés. Ceux qui disaient, eh bien, attendez un instant. Ma mère est un membre de cette église. Mon père est un membre de cette église. Mon grand-père et ma grand-mère. J'en ai été membre moi-même toute ma vie. Éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais aginosco. Je n'ai jamais eu une connaissance de toi basée sur une expérience. La vie cachée avec Christ 13 février 56 au 75. Soyez donc sûrs, mes amis, Néhémie jouez pas avec cela, c'est l'évangile. Voyez, Néhémie vous contentez pas de dire, eh bien, je pense que je vais adhérer à une église. Il y a des milliers de gens qui adhèrent à des églises qui Néhémie seront jamais au ciel. Il y a quelque temps, j'ai prêché ici sur les déceptions lors du jugement. J'ai dit que le contrebandier, le parieur, et la prostituée et ainsi de suite, Néhémie seront pas surpris, ils savent ce qui les attend. Mais celui qui sera surpris, c'est ce gars qui pense être dans le vrai alors qu'il Néhémie l'estère pas. C'est à ce moment-là que vous verrez que votre nom n'estère pas dans le livre. C'est à ce moment-là que ça sera dur. Quand vous pensiez être chrétien alors que vous n'y l'êtes pas. Telle voie paraît droite. Vous croyez intellectuellement que vous êtes dans le vrai. Vous aviez fait les choses que vous pensiez être justes. Vous avez été bon. Vous avez été gentil. Naaman était le même type de personne. Il y a beaucoup d'autres dans les Écritures que nous pouvons citer maintenant. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire. Mes amis, l'Église d'aujourd'hui, plutôt que de se vautrer là dans la justification et de rester là à l'autel, il devrait être ici à l'intérieur, consacré. Le temps de miracle est proche. Le temps de guérison, le temps des grandes choses est proche. Mais où est l'Église pour recevoir cela? Voyez-vous ce que je veux dire? Nous jouons avec cela. Nous tripatouillons cela. Et nous faisons les mesquins, sans jamais entrer directement. Mais pour ce qui est Esther de l'épouse, ils regardent ce qu'il a fait dans le cri, et ils attendent ce qu'il fera dans la voie, qui est Esther la résurrection. Frère Branham a dit dans son sermon le Christ identifié de tous les âges 17 juin 64 p. 51 il n'est mis vient qu'à ceux qu'il cherche. Gardez cela à l'esprit tout au long de cette réunion. Il n'est aimé rencontrera que ceux qu'il cherche. Christ Esther identifié le même dans toutes les générations 15 avril 64 p. 60 il n'est aimé vient qu'à ceux qui le cherchent. C'est Esther toujours ce que Dieu fait. Il vient aux siens. Le Christ identifié de tous les âges 1er avril 64 p. 56 oui. C'est Esther ainsi qu'il a été identifié hier. C'était Jésus hier. S'il est Esther le même aujourd'hui, il ferait la même chose. C'est Esther ainsi qu'il s'Esther fait connaître comme le Messie. C'est Esther ainsi qu'ils l'ont connu, par cette parole. Regardez. Mais les Hébreux cherchaient cela, et ils, n'oubliez pas, comprenez bien maintenant. Il n'apparaît qu'à ceux qui le cherchent. Il n'apparaît qu'à ceux qui le cherchent, il se fait connaître à ceux qui le cherchent. Messieurs, nous voudrions voir Jésus 4 mars 64 p. 46 mais remarquez, il n'est aimé vient qu'à ceux qui le cherchent. Nous avons des exemples dans les Écritures de ceux qui attendaient sa venue. Il y avait Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph, Anne, Siméon, Jean, son cousin, et deux qui le suivirent, Simon et André, et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, Philippe et Nathanaël, etc. Tous ceux qui attendaient la venue du Messie. La venue de l'Oméga sera-t-elle différente pour un Dieu qui n'est mis, change pas et il est intervenu au sien dans l'Alpha? Les choses qui sont à venir 5 décembre 65 donc, l'épouse apparaîtra dans l'enlèvement. Et tout cela a été planifié à l'avance par Dieu, tout est pesé. Dès le commencement, il connaissait chaque homme, chaque endroit, qui s'assirait, il savait tout. Tout est planifié à l'avance. Dieu savait que ce serait là. Et lorsqu'il l'a fait de cette façon, afin que, lorsque nous arriverons là, il est allé nous préparer une place. Et lorsque nous arriverons là, tout aura été préparé, tout comme cette soirée, même, a été préparé, comme cette heure a été préparée. Et nous savons qu'il prépare un peuple bien disposé pour le Seigneur. Et on vous a préparé pour ce jour même. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, octobre 2023. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.